RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
17h sur RCF, Reims-Ardennes, l'heure du 17-18 avec Alexis Claudretz.
Le 17-18, non pas régional, mais local, quoique avec le DAB+, on émet aussi avec nos amis qui sont du côté de Châlons, d'Épernay, de Sézanne, de Sainte-Menou. On pense évidemment aux Rémois, aux Grands Rémois, et plus à ceux qui nous écoutent à travers les Ardennes, du côté de Sedan, de Charleville-Mézières, de Vouziers, de Rethel, ou même à La Pointe, pourquoi pas, avec JV et Revin. Magazine exceptionnel ce soir, dans une petite demi-heure sur RCF Reims-Ardennes, et pour nos auditeurs en DAB+, en exclusivité, vous découvrirez notre émission Radio Guidage, produite par le réseau national de RCF, qui sera diffusé le 29 août prochain à travers tout notre réseau francophone, puisque vous le savez, RCF émet en France, mais aussi en Belgique. Eh bien nous, dès aujourd'hui, on vous emmène entre Ardennes belge au château de Bouillon et Ardennes française au château de Sedan. Nous ferons entre autres la rencontre de guides formidables comme Alain ou Manon, mais pas que. On garde quand même quelques surprises, évidemment. Mais avant cela, dans quelques secondes, Claude Ruiz nous dira qu'il faut manger des fruits et nous partagera l'histoire de l'ananas. À peine en vacances, on fera un zoom sur la rentrée scolaire de septembre 2023 avec Marc Besancenet, directeur du lycée Saint-Jean-23 à Reims. L'occasion aussi de tirer un bilan de cette année 2022-2023, des nouvelles de notre diocèse de Reims et des Ardennes avec le pèlerinage du mois d'août à Lourdes qui se prépare. Des places sont encore à saisir. Antoine Libert, un des co-organisateurs, apportera quelques précisions. Je ne suis pas seul avant de démarrer cette émission. Luca Mastrolillo est là. Pour lui, ce mercredi, c'est sa dernière journée à la rédaction, le libère de la fin de semaine, puisque de toute façon, vous le savez, vendredi, c'est férié, il n'y aura pas de programme locaux. Donc demain, Luca, c'est un jour de gagné. Les vacances vont pouvoir commencer. Bonsoir.
Bonsoir, Alexis.
On vous retrouvera juste avant l'émission Radio Guidage pour vous dire au revoir, j'allais dire correctement. Luca, si vous le voulez bien, mais comme promis, on commence avec Claude Ruiz. Bonjour, Claude. Qu'avez-vous à nous raconter aujourd'hui ?
Nous avons aujourd'hui, bonjour à tous et à toutes, au cœur de cet été, essayer de réfléchir un petit peu sur, vous le savez, l'alimentation. On nous dit qu'il faut manger des fruits, qu'il faut équilibrer notre alimentation. Nous allons essayer de découvrir un fruit exotique, un fruit qui, au départ, a été totalement impossible de le faire pousser sous nos contrées. Vous le savez que ça pose des problèmes, parce qu'après, il y a des déplacements et les marchés sont, vous le savez, assez consommateurs d'énergie. Et nous allons parler aujourd'hui de l'ananas. C'est à la fois dans sa présentation, vous le savez, avec ses feuilles sur le haut, une sorte de fruit couronné, et c'est un fruit qui s'est beaucoup déplacé. D'abord, l'origine, j'allais dire, du mot et de l'objet. En français, c'est un mot d'origine indienne, Guarani. C'est une langue indienne de la partie sud de l'Amérique latine, essentiellement actuellement de la zone qui serait le Paraguay, si on veut le rattacher à des États ou à des pays actuels. Ça a été diffusé vers le nord par des Indiens d'un groupe ethnique qui s'appelle les Tupi, T-U-P-I, et qui lui ont donné son nom. Le nom, c'est Nana. Et en réalité, ça signifie en langue indienne le fruit ou le parfum. En réalité, il y a eu déplacement donc de ces fruits en contact avec la colonisation vers, on va dire, le nord de l'Amérique. Et puis ensuite, c'est sorti, bien entendu, du continent américain. Comme les Antilles ont été peuplées à partir de l'Amérique du Sud, rien d'étonnant à ce que ça soit dans les Antilles, surtout, que les Européens, vous savez, les Français, les Espagnols, les Portugais, aient rencontré l'ananas. Christophe Colomb, celui qui réunit nos littoraux entre l'Europe et l'Amérique, Christophe Colomb, lors de son deuxième voyage en 1493, donne une première description. Il le décrit comme une sorte de pomme de pin et il a trouvé le goût excellent. Le premier fruit ne sera apporté véritablement en Europe que quelques années plus tard par un commerçant. Et ce commerçant, il est d'origine française. Il s'appelle Jean de Lévy. Il travaille pour Charles Quint et il amène des fruits à Charles Quint, à la cour de Charles Quint. Donc vous voyez, au début du XVIe. Mais Charles Quint refuse d'y goûter. Comme quoi, tout le monde n'innove pas et Charles Quint, il n'innove pas en termes de goût. Il faut attendre essentiellement le XVIIe siècle pour que les échanges commencent à se mettre en place et que que l'on trouve des marchés en Europe, essentiellement ou particulièrement par le monde hollandais, qui va s'ouvrir plus facilement à l'ananas, à ce type de goût et à ce type de produit. Alors, quels sont les premiers consommateurs en Europe? Les premiers consommateurs, c'est d'abord la noblesse. C'est une sorte d'aliment de l'élite. D'abord, vous comprenez bien que les fruits à qui on fait traverser l'Atlantique, à l'époque, ça coûte une fortune. Il y a ce phénomène de déplacement. De ce fait, on va essayer de développer ce fruit sous serre. Mais cela demande des soins considérables et souvent avec de faibles rendements. Le premier fruit véritablement obtenu en Europe, c'est en 1672 et c'est au Royaume-Uni. Après sa pousse sous serre, en réalité, ce fruit est offert à Charles II. On le sait, on connaît bien cet épisode-là, puisque dans un tableau du Victoria et Albert Museum, donc à Londres, on a la mémoire, si vous voulez, de ce geste, de cette première consommation de l'ananas. Bien entendu, j'allais dire, l'ananas continue son chemin sur les tables des élites en Europe, ceux qui ont les moyens d'aller vers cette innovation gustative. Louis XIV tente de le faire passer dans les serres du château de Choisy-le-Roi, pour Madame de Maintenon. Donc, vous voyez, là, il y a un objectif. J'allais dire, en parlant économiquement, il y a un marché. On voit que ça peut fonctionner parce que ça coûte très, très cher. Louis XV l'acclimate ou le fait acclimater au potager du roi à Versailles. Louis XV est celui qui sera parmi les personnages, si vous voulez, qui sont représentatifs, qu'on imite, celui qui est le plus friand de ce fruit. Ainsi, on va avoir un contact, et bien entendu, les colonies françaises, en particulier la Guadeloupe, où un missionnaire, le père Duterte, en 1667, fait une chronique sur ce fruit, ses qualités, etc. Il dit même, je cite, « Il est le roi des fruits, car Dieu lui a donné une couronne sur la tête. » Donc, vous voyez, il prend simplement de la morphologie du fruit, et il essaye, j'allais dire, de vendre un petit peu son produit. Alors, comment se fait la diffusion? La diffusion, en réalité, ce fruit va se développer assez rapidement dans l'ensemble des Caraïbes. Les Européens, donc, en profitent ou pas. C'est une culture attentive qui demande une certaine protection. Il faut protéger la base de l'humidité. Donc, on est obligé de préparer une petite butte sur laquelle on va pouvoir planter le fruit. Donc, vous le voyez, c'est surtout dans des éléments insulaires liés à la colonisation européenne à travers le monde que le fruit, petit à petit, va se déplacer. On va le retrouver ensuite à Ceylan, vous voyez, dans le sud du monde indien, à Java, au Mascareigne. Et puis, ça va continuer son trajet. En 1790, beaucoup plus tard, mais c'est toujours dans le cadre européen, on le retrouve à Hawaï. Pourtant, pour nous, Hawaï est peut-être aussi une représentation actuelle en disant ananas, Hawaï, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut associer. C'est surtout des espaces souvent éloignés des oiseaux-mouches qui pollinisent, parce que le problème de l'ananas, c'est qu'on mange un fruit stérile. Il ne doit pas être pollinisé, donc il faut éviter, en fin de compte, cette pollinisation. La plante, de ce fait, on est obligé de la reproduire par bouturage. Ça entraîne des contraintes, vous voyez, ce qu'on mange, comment on le mange, ce dont on a envie, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et puis, il y a le handicap du transport, puisque le fruit ne se conserve, vous le savez, à l'époque, que quelques semaines, donc les grands déplacements sont quasiment interdits à l'ananas. Alors, la mondialisation, vous avez bien compris, ça peut se faire à la fin du 19e siècle, vers les zones tempérées, en particulier grâce aux navires frigorifiques, et puis bien entendu, grâce au développement des conserves à la fin du 19e siècle. Ce sont les années 1892-93. Et là, ça va profiter à des espaces qui vont se spécialiser aux Philippines, à Hawaï, en Thaïlande et en Amérique, au Costa Rica et le développement en Afrique. Donc, c'est un élément tardif en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un fruit, j'allais dire, banal sur les marchés européens. Mais en fin de compte, il faut attendre la fin du 20e siècle pour qu'il y ait une vraie généralisation par les moyens de transport. C'est devenu un fruit courant pour l'ensemble, en fin de compte, des populations. Alors, j'ai envie de vous dire bon appétit et à une prochaine.
Merci Claude Ruiz.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Un premier invité désormais dans ce magazine estival, il est au micro de Jean-Pierre Benoît, il s'agit de Marc Besancenet, directeur du lycée Jean 23 à Reims.
Marc Besancenet, bonjour. Bonjour Jean-Pierre.
Alors, c'est vrai que c'est la fin de l'année, vous préparez déjà, depuis déjà longtemps d'ailleurs, la rentrée de septembre, mais on a vu que Jean 23, comme on dit, de façon un peu raccourcie, on devrait dire Saint Jean 23, a eu des résultats du bac assez exceptionnels.
Oui, effectivement, on a encore une belle année, encore une belle promotion, certainement dû à l'investissement des collègues et puis des jeunes. Un premier tour qui nous a un peu effrayés, puisqu'on avait 12 jeunes qui étaient au second tour. Un nombre qui est supérieur par rapport à ce qu'on a normalement, mais qui pour moi est important parce que ce nombre de 12 jeunes qui passent au second tour caractérise aussi le fait qu'on accompagne chacun des élèves et que typiquement on est vraiment dans la lignée de ce qui se fait à Jean 23, c'est-à-dire à accompagner au maximum même un jeune en difficulté, même en seconde, si on sait qu'on peut l'amener au plus haut, ben on l'amène et puis ben voilà, ça marche.
Il faut dire, Marc Besancenet, que vous avez eu une année assez remplie, assez chargée. Est-ce qu'on peut revenir en cette période de mi-juillet sur les moments forts de l'année qui vous ont marqué?
Peut-être le moment le plus fort de l'année, ça a été l'inauguration après travaux du lycée Saint-Jean 23 qu'on a fait le 14 novembre, qui marquait vraiment la fin de ces 4 années de travaux, dont certaines années qui étaient extrêmement dures pour l'équipe pédagogique et les jeunes, puisque il y a presque une année complète avec des marteaux-piqueurs un peu partout et des bétonnières qui tournaient avec maintien des cours. Donc voilà, on imagine assez aisément la difficulté de faire le face-à-face, puisque cette période de finition, dont nous sommes enfin sortis. Désormais, on a un vrai bel établissement, un écrin, comme je me plais à le dire, un écrin dans la ville.
Il faut rappeler, Marc Besancenet, très bien situé, puis très bien rénové aussi de l'extérieur, la façade, enfin les bâtiments aussi. Enfin, quand on passe boulevard Lundy ou quand on passe de l'autre côté, on s'aperçoit quand même, c'était un bâtiment, qui a de l'allure.
Oui, l'AIC, qui est le propriétaire de l'immeuble, oui, effectivement, a su travailler et investir ce qu'il fallait pour que ce bien soit encore plus beau. L'inauguration a vraiment marqué ce moment fort. On a eu l'honneur que Monseigneur puisse effectivement bénir aussi le bâtiment, pour repartir sur de bien belles années. Nous sommes sur le site depuis 98 ans. Donc dans 2 ans, nous fêterons les 100 ans, donc il y aura de nouveau une belle fête à venir.
Alors justement, il y a eu des moments forts, il y en a peut-être d'autres, Marc, que vous voulez évoquer, sinon on passe à la rentrée. Il faut dire que des moments forts, si on voulait les résumer, il y en a presque tous les jours, parce que tous les jours, un chef d'établissement, il n'a pas trop de programmes parce qu'il doit répondre à la demande en fonction de ce qui se passe. Et il peut se passer des tas d'événements, des rencontres, des élèves, des parrainages. C'est vrai que c'est toujours changeant.
C'est vrai que souvent ma liste de fin de journée est plus longue que celle que j'avais prévue au début de la journée. Mais des moments forts, oui, on en a eu et on en a vraiment souvent. Jean 23 est un établissement où il se vit des choses en permanence. Le slogan de l'établissement, c'est aimer la vie et lui donner un sens. Et pour le coup, je pense que vraiment, on caractérise le fait de donner un sens aux jeunes qui nous sont confiés. Au travers de plein d'actions, on a un club 23 qui est d'une dynamique rare. Le club 23, c'est le club des lycéens, si vous voulez, qui a une dynamique, mais en permanence, qui met des moments forts dans l'établissement. On a la journée porte ouverte, qui est un peu particulière chez nous, parce qu'elle est entièrement animée par les jeunes, les lycéens, qui sont les guides, qui sont sans interface d'ailleurs. Ils sont directement confiés aux familles. Ils se chargent de faire connaître l'établissement. On a toute la dynamique de voyage qui a été remis en route, là, enfin, après cette période très marquée du Covid. On remet seulement en route cette dynamique de voyage, d'échange international. On accueille désormais des jeunes qui viennent de différents pays européens et internationaux, d'ailleurs. Dans les gros moments forts, des choses qui m'ont marqué peut-être dans l'année, c'est le concours national de la résistance et de la déportation, où nous avons fini lauréat. Nos jeunes ont eu l'honneur de lire l'appel du 10 juin du général de Gaulle au monument aux morts. Enfin voilà, toute une série de choses. Alors, une vraie belle dynamique.
Ouais. Marc Besancenet, on le rappelle, vous êtes le directeur du lycée Saint-Jean 23 à Reims. Vous préparez la rentrée, vous la bouclez en ce moment. D'abord, est-ce que vous avez une idée de l'effectif global du lycée Jean 23 à la rentrée de septembre?
Oui, l'effectif global devrait être aux alentours de 680 élèves. On reste le plus gros lycée privé de l'Académie d'Ars. Alors c'est d'ailleurs une image que l'on n'a pas. La plupart des gens imaginent qu'effectivement Jean 23 est un petit lycée. Alors nous sommes un petit établissement avec 670 élèves, mais un gros lycée, le plus gros d'ailleurs de l'Académie, effectivement.
Je vous interromps, Marc. Est-ce que vous avez tout le monde au poste, 100% de professeurs, les élèves sont inscrits, l'essentiel est déjà administrativement un peu réalisé. Puis après, il va falloir aménager tout ça. Vous allez reprendre le service à partir du 15 août, on imagine, ou il va falloir reprendre assez vite.
C'est ça, à partir du 15 août, on sera de nouveau sur le pont pour préparer la rentrée. Là, on finalise tout ce qui est emploi du temps et charge des professeurs. Donc, effectivement, j'ai la chance d'avoir tous les professeurs pour la rentrée et les sections qui sont pleines dans les trois niveaux. C'est une rentrée qui s'augure bien.
Une rentrée qui s'augure bien, bien sûr. Vous allez quand même prendre un petit peu de vacances, Marc Besancenet, quand même, là. Vous avez... Il faut quand même un peu souffler.
Oui, l'équipe est sur le pont depuis quelques mois. Là, on a été malmené cette année par un calendrier académique qui n'était pas favorable au lycée, avec une période d'examen qui était très très active très tôt dans le temps, qui nous a contraints à assurer et à maintenir une dynamique dans l'établissement pour maintenir les jeunes, les lycéens, les terminales jusqu'au bout. Voilà ce que l'on a pu faire, mais c'est vrai que ce calendrier a fatigué les équipes. Oui.
Merci Marc Besancenet, directeur du lycée Saint-Jean 23. Puis on se retrouvera au moment de la rentrée, si vous le voulez bien.
Avec grand plaisir, j'ai un projet à vous présenter qui va vous intéresser, Jean-Pierre.
Merci Marc, à bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Merci Marc Besancenet, j'ai quand même envie de vous dire bonnes vacances. Merci Jean-Pierre, vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant.
Le 18-19 sur RCF.
À peine le temps de souffler, qu'un nouvel invité est avec nous, avec vous en studio, Jean-Pierre, Antoine Libert.
Antoine Libert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que dans quelques semaines, on y arrive, on en parle depuis quelques temps sur RCF, c'est le démarrage du pèlerinage de Lourdes, c'est du 16 au 21 août.
Oui, ça approche parce que c'est du 16 au 21 août. Et là, on est en train de finaliser en fait le départ et toute l'organisation, parce que c'est quand même une grosse organisation de mettre entre 400 et 500 personnes dans un train pour aller à Lourdes.
Alors la bonne nouvelle, c'est que le nombre d'inscrits depuis les dernières interviews de Christian Devaux, de Anne Kerr, les inscriptions ont augmenté. Bravo.
Oui. Merci aussi à la radio qui a dû participer à cette augmentation, effectivement. Bon, maintenant, on est moins inquiet sur l'équilibre financier du pèlerinage, parce que le train coûte très cher, c'est le centre des dépenses. Et donc maintenant, on a à peu près 140 hospitaliers, 170 pèlerins, 50 de jeunes et 80 malades. Donc il reste quelques places éventuellement pour des retardataires ou des gens sont encore intéressés. Mais l'équilibre financier, je pense, de l'opération devrait être trouvé.
Alors évidemment, on revient dans ce pèlerinage avec de multiples participants. Il y a les hospitaliers, il y a les pèlerins, il y a les jeunes. C'est-à-dire que vous avez à gérer...
Oui, c'est une grosse organisation. On considère qu'il y a à peu près quatre, catégories. Il y a effectivement les hospitaliers et les malades, enfin, ou les pèlerins accompagnés, comme on les appelle. Il y a les pèlerins tout court, avec des enfants parfois, et puis il y a des groupes de jeunes qui sont accompagnés, qui vont participer au pèlerinage, qui vont découvrir une partie de la foi chrétienne et qui vont être un petit peu guidés sur ces chemins-là. Et il faut qu'on organise tous ces groupes différents pour que les quatre journées qui vont passer là-bas puissent être profitables pour tout le monde, en mettant bien entendu les pèlerins accompagnés au centre du pèlerinage, parce que c'est essentiellement quand même pour eux qu'on se déplace, et que les hospitaliers, qui font un travail magnifique, se mettent à leur service pendant tout ce pèlerinage.
Antoine Libert, les auditrices, les auditeurs de RCF, qui ne se sont pas encore décidés, mais qui peuvent le faire dans les prochaines heures, dans les prochains jours, on est aujourd'hui mercredi 12, je crois que mardi 18, vous êtes... à la Maison Saint-Sixte, vous pouvez encore accueillir des pèlerins potentiels.
Comme tous les mardis, on est à la Maison Saint-Sixte, au 16 rue du Barbâtre, par l'entrée par le parking. Et il est encore possible, bien sûr, de s'inscrire, puisque le départ n'est que dans un mois et demi maintenant.
De quelle heure à quelle heure, Antoine ?
Entre 2 et 5 le mardi après-midi.
Entre 14 et 17 heures, mardi 18 juillet, mardi prochain, vous serez fidèle au poste. Alors c'est vrai que vous le répétez souvent, Antoine, mettre au premier rang les personnes handicapées, ça vous tient particulièrement à cœur dans ce pèlerinage de Lourdes, et renouveler aussi, d'une certaine façon, les gestes de Bernadette avec son message.
Bien sûr, il est évident que le pèlerinage de Lourdes, tout de suite on pense au miracle de Lourdes, on pense aux malades qui se déplacent par milliers tout au long de l'année ou tout au long des pèlerinages. Et bien entendu, les communautés qui les accompagnent se mettent à leur service parce que ils ont des difficultés pour se déplacer, etc. Et il y a toute une logistique qui est derrière de façon à pouvoir les accueillir, les soigner, etc. Les médecins qui suivent. Donc il y a toute une logistique à mettre en route et à mettre en place. Et il faut féliciter l'hospitalité qui cette année avait eu quelques inquiétudes quant au nombre parce qu'ils avaient peur de devoir refuser des malades accompagnés. Et tout se termine bien puisqu'ils ont réussi à avoir le nombre suffisant d'hospitaliers pour s'occuper de ces malades.
Alors c'est vrai qu'on a vu une progression et c'est bien de faire le point avec Lourdes régulièrement puisque là le chiffre que nous avez donné est vraiment très très prometteur, c'est considérablement amélioré. Et on va se retrouver du 16 au 21 août pour des directs de Lourdes pour donner bien sûr des nouvelles des pèlerins sur RCF. Donc à partir du 16 août jusqu'au 21 août, il y aura des témoignages en direct de pèlerins. Vous en serez bien entendu, Antoine Libère.
Et sous la direction de notre archevêque, sous la présidence
Monseigneur
de notre archevêque.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui sera là.
Exactement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce message de Lourdes ? Il y a eu 18 apparitions.
C'est ça.
Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez nous dire, Antoine.
On peut remonter de plus loin. Le Christ a habité parmi nous, comme on dit dans l'Angélus. Mais le Christ nous a envoyé aussi des signes et par l'intermédiaire de Marie, il est apparu à Bernadette à Lourdes 18 fois et Bernadette a reçu des messages qu'elle a fait passer et qu'elle était chargée de faire passer parce que son travail était un travail de missionnaire et de transmetteur pour faire passer aux prêtres et à la communauté chrétienne dont elle ne faisait pas encore réellement partie. Il fallait d'une part se confesser, prier pour les pécheurs, qu'il fallait qu'elle aille à la source, qui n'existait pas encore, pour se laver, pour laver ses péchés. Il fallait aussi que, et c'est le message qu'elle devait transmettre aux prêtres, d'organiser des processions et qu'on construise ici une église, qui est le thème du pèlerinage cette année. Et donc, Bernadette a été accompagnée par Marie tout au long de ses apparitions, comme les chrétiens maintenant, au jour d'aujourd'hui, ont besoin d'être accompagnés pour rentrer dans l'Église, pour faire leur discernement et devenir des chrétiens qui progressent dans leur foi.
Alors il y a quelques points que vous pouviez peut-être rappeler dans ces différents messages qui nous sont adressés dans la dernière minute qui nous reste.
Écoutez, il faut reconnaître que Marie a accueilli Bernadette. Elle l'a accompagnée dans sa mission pour mettre en place quelque part ce pèlerinage. Et puis, elle l'a aidée à discerner sa foi, à progresser dans sa foi. Elle est devenue religieuse pour toute sa vie. Elle n'a pas du tout varié dans toute sa vie sur le message qu'elle avait à transmettre. Et elle l'a partagé tout au long de sa vie. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que pierre vivante, nous avons besoin aussi de construire l'Église et de le partager.
Antoine Libère, pour terminer, 20 secondes maintenant, ce pèlerinage, c'est l'occasion de retrouvailles pour des pèlerins qui ont l'habitude, ils se retrouvent dans des hôtels, dans des conférences. Il y a toute une vie autour de Lourdes.
Tout à fait, il y a toute une vie. On voit à l'occasion des inscriptions plein de pèlerins qui y vont depuis des années et des années.
Et
donc c'est la joie de retrouver Lourdes.
Il y en a d'autres qui reviennent avec des jeunes enfants puisqu'il y aura des gardes qui seront organisés. Merci Antoine Libère d'avoir été avec nous.
Merci.
Et entre le 16 et le 21 août, restez à l'écoute de RCF. On rendra compte de ce pèlerinage diocésain de Lourdes. Merci.
Merci Antoine Libère, merci Jean-Pierre, et je me tourne désormais vers une autre personne qui nous accompagne dans les studios, on l'a salué en début d'émission, Luca Mastrolillo, stagiaire à la rédaction. Luca, c'est vos dernières minutes dans ce studio de RCF France Ardennes en tant que stagiaire. Voilà, l'aventure se termine. Alors, je vais commencer par prendre la parole. Nous, on a envie de vous remercier parce que vous étiez venu une première fois il y a quelques semaines et puis votre stage a été coupé en deux. Vous venez terminer la saison radiophonique 2022-2023 avec nous. Alors, grand merci pour votre implication, votre sourire, votre bonne humeur, tout le travail que vous aurez fait, notamment les montages, parce que vous y avez passé beaucoup de temps, des heures et des heures, des reportages aussi en autonomie. Avant de vous quitter, de vous laisser filer vers d'autres horizons, et pour l'instant, l'horizon, c'est les vacances, Luca Mastrolillo, on a envie de savoir, finalement, vous, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette période de stage, et puis ce qui vous a plu, et moins plu aussi, vous avez le droit de le dire.
Eh bien, tout d'abord, je voudrais moi aussi remercier tout d'abord vous, Alexis, pour m'avoir encadré pendant ces 2 mois et demi, presque. Je voudrais remercier Jean-Pierre aussi, Thierry, Fabrice. Et personnellement, j'ai beaucoup appris. Je pense que je suis pas la même personne que quand je suis arrivé il y a quelques mois. Et les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais j'ai peut-être une petite larme en ce moment même.
Bon, on va essayer quand même de ne pas trop faire couler les larmes et puis de rester pro au micro, Luca Mastrolillo. Nous, c'était vraiment un plaisir encore une fois de vous accueillir. Et puis, vous le savez, vous êtes un petit peu ici à la maison, vous repassez quand vous voulez. On espère en tout cas que ça vous a donné envie de continuer vers le journalisme et pourquoi pas de vous diriger vers la radio.
Pourquoi pas, j'ai beaucoup aimé cet exercice de la radio et peut-être que je repasserai faire un autre stage, on sait jamais.
On sait jamais, les portes seront grandes ouvertes. En tout cas, un grand merci Luca Mastrolillo.
Merci à vous.
On vous souhaite de bonnes vacances. Vous nous disiez il y a quelques jours que vous preniez la direction de l'Égypte, vous, cet été.
C'est ça, je continue mon tour du monde qui a commencé il y a 2-3 ans déjà et c'est direction l'Égypte.
Bon, ça sera une très belle étape pour cet été 2023. À très bientôt, Luca Mastrolillo. Nous, on est encore ensemble, comme le titre de l'hymne du diocèse de Reims et les Ardennes proposé par Mathieu Cossier, que l'on écoute tout de suite sur RCF.
Ensemble, 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 pas à pas, avançons, cheminons, grandissons, simplement, accueillons. Osons partager vraiment, pas à pas, avançons, cheminons, grandissons, simplement, accueillons, osons partager vraiment. Dieu me parle en l'autre, vais-je ouvrir mes portes, me laisser imprégner, grandir en fraternité. Mon frère chemin de sainteté. Chemin de sainteté. Oh, oh, oh. Mélanger, apprenons, soutenons, acceptons, humblement, désirons le pardon dans nos frictions. Mélanger, apprenons, soutenons, acceptons, humblement, désirons le pardon dans nos frictions. Dieu me parle. Porte, me laisser imprégner, grandir en fraternité. Mon frère chemin de sainteté. Oh, oh, oh. Mon frère chemin de sainteté. Oh, oh, oh. Baptisé, répétons les merveilles de son nom. Écoutons, recevons, témoignons de son pardon. Répétons les merveilles de son nom. Écoutons, recevons, témoignons de son pardon. Dieu me parle en l'autre, vais-je ouvrir mes portes, me laisser imprégner, grandir en fraternité. Mon frère chemin de sainteté. Oh, mon frère chemin de sainteté. Toi, moi, eux, nous, devenons saints. Toi, moi, eux, nous, ensemble. Toi, moi, eux, nous, devenons saints. Ensemble, ensemble, ensemble. Devenons saints.
Ensemble, l'hymne du diocèse de Reims et des Ardennes. On vous avait promis une exclusivité sur les ondes de RCF. La voilà pour vous, cette surprise, cette émission Radio Guidage qui sera à découvrir le 29 août pour tous les auditeurs de RCF à travers la France et la Belgique. Mais pour vous, les auditeurs de RCF France-Ardennes et de RCF Champagne-Ardennes sur le DAB+, c'est dès maintenant que vous avez la chance de la découvrir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec nos deux stagiaires à la rédaction de RCF France-Ardennes, Élise et Lucie, on vous emmène dans cette émission Radio Guidage à travers les Ardennes françaises et les Ardennes belges. Au départ de la station à Reims, on va d'abord traverser des paysages pendant l'heure du trajet qui nous attend. Bonjour Élise.
Bonjour Alexis.
Et Lucie, bonjour Lucie.
Bonjour Alexis.
Bon, malheureusement, le soleil n'a pas l'air d'être au rendez-vous. On espère quand même qu'il va se lever au fur et à mesure de la journée.
Oui, on est prête, mais le soleil, comme tu dis, n'est pas au rendez-vous, donc on verra bien.
Élise, t'as prévu quoi dans le sac ? Un petit kawaii, un petit pull, une casquette ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier ?
Alors, je suis pas très bien équipée niveau kawaii ou quoi, mais j'ai pris un petit pull au cas où et des petits pains au chocolat, quoi, pour faire la route.
Un petit goûter, une petite bouteille d'eau aussi, on sait jamais.
Exactement.
Et j'espère que vous êtes prête aussi à traverser les époques, car deux visites de château sont au programme.
Radio Guidage, la balade de l'été.
Qui plonge dans l'ambiance médiévale. On va d'abord se rendre au château de Bouillon, une petite ville d'un peu plus de 5000 habitants, au sud de la Belgique, à la limite de la frontière avec la France, en voiture. Les filles, avant même de rentrer dans ce château de Bouillon, on est sur le parking, là, vous découvrez cette bâtisse, vous venez de découvrir la ville, j'allais dire, historique et médiévale de Bouillon. Quelles sont vos premières impressions de cette cité ?
Le château est assez impressionnant et on a hâte de découvrir ses entrailles.
Comme a dit Élise, là, on a un magnifique château qui se dresse devant nous, donc on a hâte de le découvrir.
Avant de retrouver notre guide, Alain, au guichet du château fort, nous sommes accueillis par Manon qui nous explique ce que comprend le ticket d'entrée.
En fait, on vend le ticket qui est le Bouillon City Pass dans la période hivernale. Et alors, à partir du 1er avril, on vend le Bouillon City Pass Plus. Donc, le City Pass normal, il comprend l'entrée à l'archéoscope Godefroy de Bouillon, le musée ducal et le château fort, ainsi que son spectacle de rapaces. Et à partir du 1er avril, donc, le ticket il comprend une activité en plus. Donc, c'est l'Odyssée de Lumière. C'est un spectacle qui a lieu dans le château fort. C'est à partir de 10h. Et donc, en fait, c'est une projection qui dure environ une demi-heure. Ça raconte les 1000 ans du château fort.
Et toutes ces activités-là, on l'a fait la même journée ?
Non, c'est pas obligé de faire tout la même journée. Donc en fait, le ticket, vous pouvez l'utiliser un jour, deux jours, même l'année prochaine, vous pouvez revenir faire le reste. Et l'Odyssée de Lumière, donc c'est du 1er avril au 11 novembre généralement. Et alors, c'est pas nominatif. Donc s'il y a une activité que vous voulez pas faire, ben, vous pouvez la donner à quelqu'un.
Vous l'avez compris, Bouillon regorge de richesses. Les précisions d'Alain.
Le château est une énorme pierre dans le jardin de Bouillon. On ne respire que par le château. Mais il faut savoir... La ville de Bouillon elle-même a une histoire extraordinaire. Nous avons eu les imprimeurs. Les encyclopédistes ont été chassés de France. Et pour imprimer ces encyclopédies, l'Église chrétienne ne voyait pas ça d'un bon œil, ces gens comme Pierre Rousseau sont venus à Bouillon. Et donc, en bas, nous avons tout un tas d'histoires, notamment liées aux imprimeurs, mais aussi aux Turennes. On a des bâtiments classés dans la ville et mon épouse et moi-même d'ailleurs avons retravaillé la visite de la ville de Bouillon et c'est presque confidentiel quoi. On en fait publicité et on accroche quelques groupes mais 148 000 visiteurs voient le château mais ne voient pas le patrimoine incroyable et l'histoire incroyable qu'il y a dans la ville de Bouillon. Alors on a la chance mon épouse et moi d'avoir quelques groupes par année. Mais bien loin du compte des 148 000 visiteurs du château. Mais il faut savoir, et je profite de votre micro pour dire, une journée à Bouillon, oui, très facilement. Une journée très facile avec le château en matinée, la visite de la ville l'après-midi, et si on veut faire le mapping, c'est le soir, et si on veut faire la visite en nocturne, on choisit encore une autre journée, parce que de toute façon, en dehors de Bouillon, il y a 1000 attractions. on est dans les Ardennes, il y a de la rando, il y a d'autres villages qui sont fabuleux, il y a d'autres activités, vraiment, il faut aller sur Internet, on a tout sur Internet maintenant, donc on n'a pas d'excuses. Je connais des gens qui viennent passer 7, 15 jours à Bouillon, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On a visité le château, tourisme d'un jour ou de deux jours, et on s'en allait. Maintenant, on peut pertinemment passer 15 jours, surtout les gens ont redécouvert ça pendant le Covid, où les frontières étaient fermées, et là, les gens étaient obligés de venir chez nous. Et là, ils se sont dit, mais mon Dieu, quelles infrastructures, quel accueil, quel patrimoine. Ils ont redécouvert tout ça, et on en a gardé pas mal. Sauf que l'année d'après le Covid, il a plu beaucoup, donc voilà. Parfois, le soleil est absent, mais le réchauffement climatique aidant, croyez-moi, on a des belles saisons ensoleillées. Ça peut encore arriver qu'on a un petit dérapage. Mais 15 jours à Bouillon, ça vaut 15 jours à Saint-Tropez. Et il y a un château en plus, donc voilà.
Nous, justement, c'est sur ce château dont les premières fortifications sont datées du 8e siècle que l'on se concentre. Et lorsque nous sommes avec Alain et que l'on l'observe bien, il est habillé en croisée. Explication.
Cette croix a flotté sur les remparts de Jérusalem lorsque les croisés, parce que c'est ainsi qu'on les appelait, ont gagné la première croisade. Et la croix de Jérusalem est censée représenter les 5 blessures de Jésus-Christ, le Fils de Dieu dans la religion chrétienne, qui a été justement crucifié en l'an 33 à Jérusalem. Les 5 croix représentent ces 5 blessures. Le clou dans la main gauche, le clou dans la main droite, le clou qui a laissé des traces dans le pied gauche et pied droit, et la lance du soldat romain pour achever Jésus sur la croix.
Désormais, avec ces quelques bases historiques, que la visite commence.
Au Moyen-Âge, il y avait 50 000 châteaux. Vous imaginez ça ? 50 000 châteaux ? Ils étaient tous distants d'une journée de cheval. Dans votre région, il y a des châteaux. Oui, parce qu'il en reste 3 000 environ de châteaux. Et figurez-vous que les 3 000 châteaux qui restent, ils sont pour la plupart, bizarrement, concentrés sur le petit territoire de la Belgique. Avant, ils s'étendaient dans toute l'Europe, mais ils ont eu des destins différents. Il y en a, heureux châteaux, qui ont été privatisés. Donc ceux-là, bah, ils n'ont plus aucun intérêt historique, évidemment, parce qu'on les a modernisés. On y a parfois même mis le chauffage. Donc ça n'a plus aucun intérêt. Puis en plus, on ne peut pas les visiter, puisqu'ils sont privés. D'autres ne sont plus que des noms. Sur des pancartes, des lieux-dits, il y a quelques pierres, quelques ruines. Et vraiment très peu de châteaux sont encore visités. Et c'est possible parce qu'ils sont encore relativement en ordre, vais-je dire, comme celui-ci. Celui-ci, il le doit à plusieurs choses, le fait d'être encore là. D'abord, il est creusé dans un rocher. Vous le voyez, le rocher ? Il va nous accompagner toute la visite. La main de l'homme et le rocher. Donc, ces 50 000 châteaux, ils étaient tous construits plus en bois qu'en pierre. Donc forcément, ils ont disparu. Sauf que celui-ci, en 1521, il y a un monsieur un peu fougueux qui s'appelle Charles Quint qui va venir le détruire totalement et le village avec. Donc du coup, un nouvel architecte va venir et va reconstruire le château. Cette fois-ci, il ne va pas le reconstruire en bois, évidemment. Il va le reconstruire plus en pierre qu'en bois. C'est pour ça qu'il est toujours là. Mais pas que. D'abord, il est creusé dans le rocher, je vous l'ai dit. Mais aussi, il est réputé imprenable. Imprenable parce qu'il a 4 défenses. C'est beaucoup. Et c'est dangereux. Aujourd'hui, on les a évidemment aménagés. Donc c'est moins dangereux pour les visiteurs, forcément. Mais à l'époque, c'était extrêmement difficile de pénétrer le château de Bouillon.
Greffé à un groupe de scolaires, on se déplace de pièce en pièce avec plusieurs haltes intéressantes.
On a de la chance aujourd'hui, il pleut. Alors quand je viens faire visiter le puits du château, ben, il pleut pas tous les jours, hein, surtout ces temps-ci. Et on entend l'eau hein, qui coule dans le puits. Alors effectivement, ce puits, il existe depuis le départ du château. Il a très certainement servi d'abord à amener les matériaux ici pour construire le château. Et puis lorsqu'on avait fini de faire le château, eh bien, on a creusé le puits jusqu'à la rivière. Vous avez vu la rivière en arrivant ? C'est aussi une défense du château, pas la principale, hein. Mais enfin, ça peut servir. Et donc on a creusé le puits jusqu'à la rivière, et on a un puits d'eau, on est sauvé. Sauf que ça fait 80 mètres de profondeur. Vous entendez l'eau qui s'écoule là ?
Il faut quand même la tirer de là, 80 mètres de profond. Écoutez l'écho. Vous l'avez remarqué, mais ce souterrain est très bas. Vous avez remarqué que c'était très bas. Alors, est-ce que les gens du Moyen-Âge ont mal construit les châteaux? Non, pas du tout. Ils n'ont pas mal construit les châteaux. Ils ont construit les châteaux intelligemment, mais en pensant militaire. Le guerrier le plus redoutable du Moyen-Âge, c'est le chevalier. Son épée peut peser jusqu'à 2, 3, 4 kilos. Vous imaginez un peu l'athlète qui manie cette épée? Et dans le mot chevalier, il y a le mot cheval. Quand il est sur son cheval, le chevalier, avec son épée, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est impossible. Il est beaucoup plus fort que vous. En construisant le tunnel bas, vous l'obligez à mettre pied à terre. Et là, vous avez une petite chance de le retarder. Vous voyez? Donc tout est pensé militaire, comme ici. Et là, je vous engage à faire attention pour la suite de la visite. Donc vous voyez ici, on a des marches. Hein, et c'est tout le temps comme ça, tout le long du château. Il y a des marches. Et après les marches, il y a de quoi vous assommer. Évidemment, si vous envahissez le château en courant, bah, vous allez bien vous trébucher là. Et si vous vous trébuchez là, vous allez vous faire très très mal. Hein. Donc pour la suite de la visite, faites toujours attention à vos pieds et les grands à votre tête. C'était un atelier ici. On réparait les armes à feu. Donc c'est un peu plus récent. Mais on en a fait une salle de torture. Parce qu'on associe, malheureusement, la torture au Moyen-Âge. Petit rappel peut-être. Qui commande la société au Moyen-Âge ? Les seigneurs, les nobles et l'église chrétienne. À l'époque, elle est la seule, l'église chrétienne. Et elle entend bien le rester. Sauf que fin 12e, début 13e siècle, il y a déjà beaucoup de gens qui savent lire. Et il n'y a pas beaucoup de livres. Il y en a un qui s'appelle la Bible. C'est la parole de l'église chrétienne. Et ceux qui l'ont lu, ben, ils remettent un petit peu en cause ce qui est marqué dans la Bible. Oh, ils disent, moi, vous savez, quelqu'un qui marche sur les eaux, moi, je n'y crois pas trop, ou qui change l'eau en vin, ça me paraît bizarre. Ça, l'Église, elle n'aime pas du tout hein, qu'on la contredise. Donc, tout qui va contester la parole de l'Église, cette Église va s'intéresser à cette personne. S'intéresser comment? Elle va faire une enquête sur cette personne. On dit en espagnol, une inquesta, l'inquisition. Rien que ce mot, ça fait trembler à l'époque. Quand l'Église vient, elle vient vous interroger, elle le fait comment? Avec la torture. Parce qu'elle veut entendre un mot, cette Église. Hérésie. Elle veut que vous avouiez que vous êtes un hérétique. Quand vous êtes sur l'échelle là, qu'on vous a noué les poignets et les chevilles, et que grâce à une corde et une poulie, on vous étire sur l'échelle, après 10 minutes, vous avouez tout ce qu'on veut vous faire avouer.
Entre deux averses, on peut aussi voir les parties extérieures du château.
Il faut que cette route soit sécurisée. Voilà ce que fait le château de Bouillon ici. Aujourd'hui, évidemment, c'est une attraction touristique. Hein. Alors, quand j'ai monté la garde, pendant 4 heures, je suis fatigué. Si mon chef n'est pas là, je m'assois. Regardez, ils ont creusé un siège dans le rocher. Ils sont malins, les gens du Moyen-Âge. Et je m'assois. Ouf, ça fait du bien. Hein. On se repose, non? Et je peux continuer à surveiller ma route et mon château. S'il pleut, comme aujourd'hui. Ils ont creusé un tunnel dans le rocher. Et regardez, il y a une ouverture là. Et par l'ouverture, le soldat peut continuer à monter la garde. Ça paraît puéril, hein. Mais quand il fait moins 40, qu'il n'y a pas le rocher, pardon, qu'il n'y a pas le mur, vous imaginez ici monter la garde avec un vent glacé? Eh bien, ils sont contents hein, d'aller dans le tunnel et d'observer par ce petit trou. Si tout se passe bien autour du château. Il y a une légende à ce siège, on l'appelle le siège de Godefroy de Bouillon.
Et pour découvrir la légende, on vous invite à faire la visite du château de Bouillon. Mais pour nous, la suite de notre journée, c'est au château fort de Sedan que ça se passe. Alors avant de partir, on interroge tout de même Alain sur ce qui relie réellement l'histoire des deux châteaux.
Ah, historiquement, c'est la famille Lamarque qui relie les deux sites. Il faut savoir que ce château est 6 propriétaires différents et que un de ses propriétaires,
Bizarrement, les princes évêques de Liège, qui l'ont gardé 500 ans, alors qu'ils le géraient de très loin, Liège est à plus d'une journée de cheval d'ici, croyez-moi. Enfin, je ne l'ai jamais fait, hein, je plaisante. On le fait en train, ça va plus vite. Mais les Liégeois, les princes évêques, en avaient marre de venir un peu faire la police chaque fois que le château était mis en faiblesse, on va le dire comme ça. Et donc, ils ont pris les services d'un gérant à l'époque. Et les gérants, il est tout près, 35 000 mètres carrés de magnifique château Sedan, avec la famille Lamarque. Et donc, ils les ont mis comme gérants. Sauf que l'appétit vient en mangeant, n'est-ce pas? Au Moyen-Âge, et encore aujourd'hui, je ne vous le cache pas, l'homme est un loup pour l'homme. Et donc, les Lamarques ont fini par mettre la main sur les pierres du château, et surtout sur le titre de duc. Hein. Le titre de duc, c'est pas n'importe quoi. Un duc a les mêmes pouvoirs qu'un roi, donc vous imaginez un peu mettre la main sur les pouvoirs régaliens d'un duc, donc les mêmes pouvoirs que Louis XIV, somme toute. Voilà, les Lamarques n'ont pas hésité une seconde, donc ils furent un des propriétaires, avec un petit peu d'usurpation, du château de Bouillon. Mais enfin, aujourd'hui, on a de très bons rapports avec le château de Sedan. Hein. Voilà, on a baissé les armes depuis le Moyen-Âge, il n'y a pas de souci. On collabore plus qu'on s'ignore.
Pendant un temps, j'avais entendu parler qu'il y avait une galerie qui reliait les deux domaines, qui aurait existé, légende, réalité.
Des légendes, il y en a beaucoup, et comme je l'ai dit durant la visite précédente, et comme je le dis dans beaucoup de visites, les écrits du Xe siècle, évidemment, sont très peu nombreux. Pour la majorité, voire pour la totalité d'entre eux, c'est une réécriture de l'histoire, a posteriori, par des gens parfois orientés. On pense tout de suite aux ecclésiastiques, mais il y en a d'autres. Et donc, ce qui est écrit au Xe siècle est souvent empreint de fausses histoires et de légendes. Il n'y a pas de souterrain. On n'est pas en Colombie non plus. Hein. Entre Sedan et Bouillon, ça se saurait. Ce qui fait peut-être naître la légende, c'est qu'il y a deux souterrains. Il y en a un qui est bouché et un qui est visité dans le château de Bouillon. Donc peut-être que celui qui est bouché a généré la légende. Mais non, il n'y a rien de cela. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur le Moyen-Âge que nous avons dans la tête, de par les romanciers du 19e siècle ou de par nos amis américains qui font beaucoup de films sur le Moyen-Âge et qui n'ont eux-mêmes jamais possédé un château du Moyen-Âge. Donc forcément, ils nous ont resservi notre culture à leur sauce. Donc ça génère dans l'esprit de nos enfants et dans les nôtres des choses un petit peu légendaires, pour être gentil. Voilà.
Et concernant cette galerie dont on parle beaucoup, mais qui n'existerait finalement pas, même son de cloche du côté de Manon, la guide qui nous accueille du côté du château fort de Sedan.
C'est un mythe. Puisque en fait, donc le mythe c'est qu'il y ait un tunnel, un passage qui relie le château de Sedan au château de Bouillon. Sauf que techniquement c'est impossible, surtout au Moyen-Âge. Le château de Bouillon est assez haut sur un promontoire rocheux et il est assez loin. Donc les personnes du Moyen-Âge ne se seraient pas embêtées à creuser un tunnel si compliqué pour relier les deux châteaux et ça n'avait finalement pas grand intérêt.
Mais par contre les deux châteaux sont reliés par l'histoire et notamment par la famille Lamarque, c'est ça?
Tout à fait. Puisque quand on était prince ou princesse du château de Sedan, on l'était aussi pour Bouillon. Donc la famille occupait symboliquement les deux châteaux.
Mais avant d'entamer une nouvelle visite, on fait un bilan de la première. C'était au château de Bouillon donc, avec nos stagiaires qui sont toujours là. Ça t'a plu, Élise?
Pourquoi pas emmener mes amis ou ma famille pour le revisiter?
Lucie, tes impressions sur cette visite du château de Bouillon, qu'est-ce qui t'a plu?
Franchement, c'était un magnifique château. J'ai beaucoup aimé le guide. Il nous a emmenés dans presque toutes les pièces du château. Donc franchement, c'était top.
Et c'est une chose que tu devrais bien refaire avec tes frangines, par exemple?
Oui, exactement. Mes sœurs adorent les châteaux, donc ça pourrait être top aussi.
On se retrouve là, cette fois, face au château fort de Sedan et on découvre également cette ville. Élise, tu connaissais déjà Sedan avant qu'on y soit là, à l'instant?
Alors, j'étais déjà venue avec ma famille. Après, j'avais pas été dans le château, j'avais juste vu la bâtisse. Donc là, ça va être plutôt sympa de découvrir du coup l'intérieur de ce château.
Pour l'instant, on n'a pas encore vu plus, mais on va aller découvrir effectivement l'intérieur, les coulisses du château fort de Sedan. Lucie, est-ce que toi, tu as déjà eu la chance d'aller visiter ce magnifique édifice?
Oui, il y a quelques années avec mes parents et mes sœurs, mais à ce qui paraît, ils ont refait quelques rénovations, donc on verra bien cette année.
On va voir si ça va te plaire autant qu'à l'accoutumée, voire davantage.
Exactement.
Pour la visite du château de Sedan, on retrouve donc Manon qui s'adapte à son public visiteur, avec nous aujourd'hui principalement des enfants.
Donc à l'origine, le château a une forme triangulaire. Et ensuite, les descendants du premier seigneur, qui s'appelait Évrard de Lamarque, ont agrandi le château. Donc comme vous voyez, le château a été agrandi au fur et à mesure du temps par les descendants d'Évrard de Lamarque. Le fils d'Évrard de Lamarque, Jean de Lamarque, a continué la construction du château. Et ensuite, ce sont ses fils, ses petits-fils qui ont continué. Donc Jean a eu un fils qui s'appelait Robert Ier. Robert Ier a eu un fils qui s'appelait Robert II. Robert II a eu un fils
qui s'appelait
Robert III
a eu un fils qui s'appelait
Robert IV.
Et Robert IV a eu un fils
Robert III.
Et non. Et là, ils se sont dit, il y a beaucoup de Robert quand même. Donc, ils l'ont appelé Henri Robert. Et ensuite, Henri Robert a une fille qu'il a appelée Charlotte. Et Charlotte se marie à un certain Henri de la Tour d'Auvergne. Et elle décède 3 ans après son mariage. Donc Charlotte est la dernière des deux Lamarck. Ensuite, le château passe aux deux La Tour d'Auvergne. Alors, on m'a demandé s'il y avait des passages secrets dans le château. Il n'y avait pas de passage secret dans le sens secret pour tout le monde. Il y avait ce petit tunnel-là que vous voyez. Donc aujourd'hui, il est fermé. Donc ça ne mène à rien parce que ça s'est éboulé. Mais en fait, avant, ça servait quand il y avait un siège. Donc quand le château était attaqué, on pouvait faire partir des personnes par ici, des messagers, qui venaient adresser des messages aux ennemis qui se trouvaient à l'extérieur. Et on pouvait aussi avoir une communication avec l'extérieur. Donc c'était pas secret parce que les personnes du château savaient que ça existait. Mais voilà, c'est un passage qui permettait de garder la communication lorsqu'on était entouré par l'ennemi.
Et en ce jour de pluie, au moment de la visite, impossible de ne pas parler des douves lorsque Manon évoque les stratégies de défense.
Après le deuxième mur, ici, on a les douves qui sont remplies d'eau. Donc c'était très difficile pour les ennemis de venir attaquer le château, puisqu'ils devaient d'abord traverser les douves, et pour nager avec une armure, c'était très compliqué. Ensuite, ils devaient grimper le premier mur qui faisait 12 mètres de haut, traverser la terrasse, monter le deuxième mur qui faisait 12 mètres de haut, et tout ça en évitant les canons, les projectiles, les flèches. Donc c'était très très compliqué d'attaquer le château. Et du coup, le château de Sedan n'a jamais été attaqué. Alors un certain Charles Quint a essayé, et quand il a vu les défenses du château, il s'est reporté sur une autre ville, sur la ville de Mézières.
Une visite que l'on vous fait vivre en accéléré, mais qui plaît à nos stagiaires.
C'était différent de celui qu'on a vu ce matin. On a vu quelques pièces du château, donc voilà.
Ok, Lucie, qu'est-ce qu'on a pensé de ce château de Sedan ?
Le château était magnifique malgré la pluie. La guide était plutôt bien, c'était cool. On en a beaucoup appris sur ce château, donc j'ai bien aimé.
Au début de l'été, vous pouviez même voter pour élire le château fort de Sedan comme monument préféré des Français. Un lieu à découvrir absolument, mis en valeur tout au long de l'année et plus particulièrement pendant cette période estivale. Rencontre avec la responsable communication du château fort de Sedan, Audrey Tillois.
On a un nouveau gestionnaire depuis juin 2020. Et là, c'est vrai que depuis, on a de nombreux projets de nouveautés, de restauration, refait le parcours de visite. Donc là, on a fait la deuxième phase cette année et on fera la troisième phase en 2024 et on fêtera en même temps les 600 ans du château puisqu'en 1424, on fêtera voilà, le 1424, les premières fortifications. Donc 2024, 600 ans du château. Donc il y a plein de choses qui vont se préparer autour de cette date anniversaire. Et on développe effectivement plein de choses au château. On a ouvert un escape game, on a refait la taverne du château, la boutique, les extérieurs aussi, on réaménage beaucoup et on se félicite d'avoir passé la barre des 100 000 visiteurs en 2022, c'est vraiment un record, donc on est vraiment content et on continue dans nos projets, toujours plus de développement et en tout cas d'immersion pour le public au château.
Alors vous l'avez dit, 2024, c'est une année tout à fait particulière, vous venez aussi Audrey de souligner un événement, les fêtes médiévales, ça se passe généralement au mois de mai, chaque année, c'est vraiment l'événement qui rassemble, j'allais dire, qui fédère autour du château fort de Sedan et qui fédère bien plus que la ville, c'est le département, la région, les pays frontaliers, c'est vraiment l'événement de l'année.
Ah oui, alors le festival médiéval, c'est vrai que c'est un événement majeur de la ville de Sedan, mais aussi du département des Ardennes et bien au-delà. Aussi dans le milieu des fêtes médiévales, on est quand même dans les plus grosses fêtes de France et on est quand même maintenant bien connu. On a fêté la 26e édition cette année avec de nouveau une fréquentation record puisqu'on a accueilli 21 500 visiteurs sur le week-end. Donc c'était déjà un record en 2022 après 2 années d'annulation suite au Covid. Et là, cette année, on a de nouveau franchi encore un palier sur le festival. Donc on est vraiment heureux de ça et c'est un peu aussi l'événement fort de l'année qui marque aussi le début de la saison touristique. C'est vrai qu'à la base, le festival elle avait été créé pour ça, pour lancer la saison touristique en mai. Et là, c'est vrai que c'est toujours le rendez-vous attendu par de nombreux visiteurs, qu'ils soient sudanais ou même maintenant au-delà des frontières. Je le disais tout à l'heure, beaucoup de Belges maintenant et même de clientèle étrangère qui viennent profiter du festival.
Alors on prend un petit peu d'avance sur l'année 2024 parce qu'on imagine qu'on est déjà dans les préparatifs de cette année particulière par rapport à l'anniversaire que vous évoquiez et par rapport aux fêtes médiévales, ce qu'elles représentent, comme vous venez de le dire. Certainement que ça va être une année davantage spectaculaire, parce que comme c'est une année anniversaire, on va essayer de faire les choses peut-être différemment. Il y a des surprises qui se trament. Je ne sais pas ce que vous avez le droit de dire ou non, mais on essaye quand même de savoir.
Non, tout à fait. Non, mais après, effectivement, on réfléchit déjà pour le festival 2024. On sait qu'on lui donnera un peu plus d'ampleur, ou en tout cas, pour être en lien avec les 600 ans du château. On réfléchit peut-être à un jour en plus, ou une programmation forcément plus dense, peut-être que sur un week-end, mais avec plus d'animation, avec vraiment des temps forts. Mais c'est sûr que le festival médiéval de 2024 sera forcément une édition particulière.
Pour l'instant, Audrey Tillebois, on est à l'été 2023. Alors, les fêtes médiévales, elles sont passées cette année. Pourtant, si l'on vient visiter le château fort de Sedan, il y a quand même de très belles activités à faire, de très belles choses qui sont proposées tout au long de l'été. On fait un petit panorama avec vous.
Alors, panorama, effectivement, on aura encore une fois un programme très dense cet été. Donc, tout d'abord, le château ouvert pour les visites tous les jours, pendant tout l'été. On aura des visites soit libres, des visites aussi guidées tous les jours. On propose aux visiteurs de partir en visite accompagnés d'un guide. Et on aura aussi des visites nocturnes au flambeau tous les samedis soirs. Et ces visites nocturnes sera vraiment de la balade contée. On part en visite avec un guide costumé. Ce sera des personnages, ils vont incarner des personnages historiques de l'histoire du château, différents à chaque fois. Et les personnages, ils vont faire vraiment immerger le public encore une fois dans les grands temps forts de l'histoire du château en fonction des personnages qui seront incarnés par nos guides. On retrouve le spectacle de chevalerie, évidemment, depuis de nombreuses années maintenant, avec une nouvelle compagnie cette année, Unicorn Légende, qui vient de Dunkerque, et donc qui seront avec nous tout l'été aussi pour des spectacles tous les jours, trois fois par jour. Alors ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a un spectacle différent le matin et l'après-midi, ce qui peut permettre aussi de faire les deux, puisqu'on a un spectacle le matin où on est sur l'entraînement des écuyers, où là on va prendre des enfants dans le public pour constituer la garde du seigneur et les entraîner pour être chevalier. Et l'après-midi, on enchaîne avec un autre spectacle qui relie celui du matin avec vraiment du combat, avec la rivalité entre les deux seigneurs. Et la nouveauté aussi du spectacle de chevalerie cette année, c'est qu'il sera en nocturne également, donc les vendredis soirs. Il y aura un spectacle de chevalerie en nocturne qui sera agrémenté de feu et de pyrotechnie. Donc ce sera aussi tous les vendredis. Donc voilà, encore de la nouveauté. Et aussi dans le parcours de visite, parce que je parlais des visites tout à l'heure, mais dans le parcours de visite du château, toute la journée, on aura des personnages costumés qui déambuleront dans différentes pièces, et donc les visiteurs pourront, au gré de la visite, rencontrer des personnages pendant la journée et se prendre en photo avec, leur poser des questions. Voilà, ce sera toujours plus d'immersion, en tout cas dans le château. Et on aura nos animations en plus qui complètent la visite, le tir au trébuchet, donc là où on invite les visiteurs à venir essayer le trébuchet. On explique aussi les techniques de défense à l'époque du Moyen-Âge. Et notre animation qui est le camp du seigneur, où on reconstitue un camp médiéval sur une des terrasses du bastion. Et là, on fait une présentation de l'armement et de l'équipement du chevalier à l'époque, avec la possibilité pour les visiteurs, les enfants également, d'essayer des armures, de peser les cottes de mailles, de se rendre compte aussi de, à l'époque, quand on partait en guerre, quand on s'équipait, comment on se préparait et qu'est-ce qu'on portait. Donc c'est des animations qu'on propose depuis 2 ans et qui fonctionnent vraiment bien.
Les informations pratico-pratiques, on vous retrouve où, Audrey?
Le site internet, www.chateau-fort-sedan.fr. Les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est vraiment présent partout, donc on retrouve les informations de toutes nos animations vraiment facilement.
Merci beaucoup, Audrey Tillebois, et puis bel été au château de Sedan.
Merci à vous aussi.
L'été n'est pas terminé, et même si vous prenez vos vacances en décalé, Ardennes française et Ardennes belge regorgent de richesses, avec à Sedan et à Bouillon deux châteaux exceptionnels à découvrir. Et si vous n'avez pas le temps d'y aller, j'ai un secret, ils sont ouverts tout au long de l'année. Pour sûr, comme nos stagiaires, vous passerez au moins une belle journée. C'est là-dessus que se referme cette émission Radio Guidage aujourd'hui. À très bientôt en 2023 ou à travers les époques. Et c'est là-dessus que se referme le magazine estival ce mercredi. Bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.